Chapitre 38. Lily. C'est le destin qui distribue les cartes, mais c'est nous qui les jouons. Randy Pausch. Je lui ai proposé 15 000 $ pour jouer le rôle de Billy, mais pas dans un film, dans ta vie. La révélation de Milo me fit l'effet d'un uppercut. J'étais groggy, comme un boxeur sonné qui s'effondre au milieu du ring. Il profita de ma confusion pour se justifier. Je sais que ça paraît insensé, mais ça a marché, Tom. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. Il fallait administrer un électrochoc suffisamment puissant pour te faire réagir. C'était la dernière carte que je pouvais jouer pour te sortir du trou. Déstabilisé, je l'écoutais sans comprendre. Billy, une simple actrice. Toute cette aventure, une simple manipulation. Je ne pouvais pas m'être laissé berner comme ça. Non, je ne te crois pas, dis-je. Ça ne tient pas debout. Au-delà de la ressemblance physique, il y a trop de preuves pour accréditer l'existence de Billy. Lesquelles ? Le tatouage, par exemple. C'était un faux, une inscription temporaire réalisée par un maquilleur de cinéma. Elle connaissait tout de la vie de Billy. J'ai fait lire à Lily tous tes romans et les a décortiqués. Je ne lui ai pas donné le mot de passe de ton ordinateur, mais elle a eu accès aux fiches biographiques de tes personnages. Et comment y as-tu accédé toi-même ? J'ai payé un technicien pour pirater ta machine. T'es un vrai salopard ? Non, je suis ton ami. Il avait beau argumenter, je n'arrivais pas à me laisser convaincre. Mais tu m'as toi-même conduit chez la psy pour me faire interner. Parce que je savais que si mon plan marchait, tu aurais cette réaction de refus et que tu chercherais à t'enfuir. Les images de tout ce que j'avais vécu avec Billy défilaient dans ma tête avec netteté. Je l'ai passé au crible, espérant renvoyer Milo à ses contradictions. Attends, elle a su réparer la voiture lorsque la Bugatti est tombée en panne. Où a-t-elle appris la mécanique si ses frères ne sont pas garagistes ? Il répondit du tac au tac. Un simple câble que j'avais débranché. Une manœuvre mise au point avec elle pour dissiper définitivement tes doutes. Ne cherche pas. Il n'y a qu'un détail qui aurait pu la trahir, mais tu es heureusement passé à côté. Quoi donc ? Billy est gauchère, tandis que Lily est droitière. C'est tout bête, hein ? Sur ce point-là, ma mémoire me faisait défaut. Impossible de savoir s'il me disait la vérité. Elles sont bien gentilles, tes explications, mais tu fais l'impasse sur le plus important, la maladie de Billy. C'est vrai qu'en arrivant au Mexique, les choses se sont précipitées, reconnut Milo. Même si tu n'étais pas encore capable de te remettre à écrire, il était évident que tu allais mieux et surtout qu'il se passait quelque chose entre toi et cette fille. Sans vous l'avouer, vous commenciez à tomber amoureux l'un de l'autre. À ce moment-là, j'ai pensé te révéler toute l'histoire, mais Lily a tenu à continuer. C'est elle qui a eu l'idée de cette mise en scène autour de la maladie. Je nageais en plein brouillard. Mais dans quel but ? Parce qu'elle t'aimait, pauvre idiot. Parce qu'elle voulait ton bonheur, que tu te remettes à écrire et que tu puisses reconquérir Aurore. C'est ce qu'elle a réussi à faire. Donc les cheveux blancs, c'était de la teinture, l'encre dans la bouche, le contenu d'une simple cartouche de stylo déversée sous la langue. Et le résultat des analyses au Mexique, la cellulose trouvée dans son corps. On a bidonné tout ça, Tom. Le docteur Philipson était à 3 mois de la retraite. Je lui ai dit que tu étais mon ami et que je voulais te faire une blague. Il s'emmerdait comme un rat dans son dispensaire, et cette plaisanterie l'a amusé. Mais comme dans tous les plans, il y a eu ce petit grain de sable qui a tout fait dérailler lorsqu'Aurore t'a proposé d'emmener Billy chez le professeur Clouseau. Clouseau, lui, ne se serait jamais prêté à des bidonnages. Lorsque nous étions à Paris, les symptômes de Billy n'étaient pas simulés. Elle a failli mourir, j'en suis certain. Tu as raison. Mais c'est là qu'il s'est produit quelque chose d'extraordinaire, Tom. Sans le savoir, Billy était vraiment malade. C'est grâce à Clouseau qu'on a pu diagnostiquer son myxome cardiaque. D'une certaine façon, je vous ai sauvés tous les deux. Et ce livre que tu as cherché pendant des semaines tout autour du monde. Là, j'ai été dépassé par les événements, admit-il. Carole n'était au courant de rien et croyait dur comme fer à cette histoire. C'est elle qui prenait les initiatives. Moi, je me contentais de jouer le jeu. »
Milo n'eut pas le temps de finir sa phrase que mon violent coup de poing l'envoya au tapis.
« Tu n'avais pas le droit de faire ça !»«
De te sauver ?»
demanda-t-il en se relevant.
« Non, ce n'était pas un droit. C'était un devoir.
Pas à n'importe quel prix !»«
Si, justement, à n'importe quel prix !»
Il essuya le filet de sang qui coulait de sa bouche avant de marteler.
« Tu aurais fait la même chose que moi. Pour protéger Carole, tu n'as pas hésité à commettre un meurtre, alors ne me donne pas de leçons. C'est l'histoire de notre vie, Tom. Dès que l'un de nous flanche, les deux autres lui portent secours par tous les moyens. C'est pour ça qu'on est toujours debout. Tu m'as sorti de la rue. Sans toi, je serais encore en prison, pas en train d'épouser la femme que j'aime. Sans toi, Carole se serait peut-être pendue au bout d'une corde au lieu de s'apprêter à donner la vie. Et toi, où serais-tu aujourd'hui si nous t'avions laissé te détruire ? Interné dans une clinique ? Mort peut-être ?
Une lumière blanche filtrait à travers les vitres dépolies. Je laissai sa question en suspens. Pour l'instant, j'étais préoccupé par autre chose.
Qu'est devenue cette fille aujourd'hui ?
Lily ? J'en sais rien. Je lui ai donné son fric et elle a disparu de ma vie. Je pense qu'elle a quitté Los Angeles. Autrefois, elle travaillait le week-end dans une boîte de nuit sur le Sunset Strip. J'y suis retourné, mais personne ne l'a plus jamais revue.
Quel est son nom de famille ?
Je l'ignore. Je ne suis même pas certain que Lily soit son véritable prénom.
Tu n'as pas d'autres indices ?
Écoute, je comprends que tu aies envie de la retrouver. Mais la femme que tu recherches est une actrice de deuxième zone. La serveuse d'un club de striptease, pas la Billy que tu as aimée.
Garde tes conseils pour toi. Donc tu n'as aucune info ?
Non, je suis désolé. Mais sache que si c'était à refaire, je le referai 10 fois.
Je sortis du hangar, accablé par les aveux de Milo, et fis quelques pas sur le ponton en bois qui s'avançait sur le lac. Indifférent aux tourments des humains, les cygnes blancs nageaient au milieu des iris sauvages. Je récupérai ma voiture au parking et longeai la côte jusqu'à Santa Monica avant de m'enfoncer dans la ville. Le chaos régnait dans ma tête et j'avais l'impression de rouler sans but, traversant Inglewood, continuant sur Van Ness et Vermont Avenue, avant de me rendre compte qu'une force invisible m'avait ramené jusqu'au quartier de mon enfance. Je garai la décapotable près des bacs à fleurs qui, à mon époque déjà, ne contenaient rien d'autre que des mégots et des canettes vides. Au pied des tours, tout avait changé et rien n'avait changé. Toujours les mêmes mecs qui tiraient des paniers sur l'asphalte, tandis que d'autres tenaient les murs en attendant que quelque chose se passe. Pendant un moment, je crus vraiment que l'un d'entre eux allait m'apostropher.
« Hey, Mr. Freak !»
Mais j'étais devenu un étranger, et personne ne m'asticota. Je longeai le terrain de basket grillagé jusqu'au parking. Mon arbre était toujours là. Encore plus rachitique, encore moins feuillu, mais toujours debout. Comme avant, je m'assis sur l'herbe sèche, le dos appuyé au tronc. À cet instant, une Mini Cooper déboula et s'arrêta à cheval sur 2 emplacements. Encore vêtue de sa robe de mariée, Carole sortit de la voiture. Je la vis s'avancer vers moi, tenant dans la main droite un gros sac de sport et dans la gauche, sa belle traîne blanche qu'elle s'efforçait de ne pas salir.
« Non !
Il y a un mariage sur le parking ! »
cria un des lascars du terrain de sport. Ses collègues vinrent mater la scène un instant avant de retourner à leurs occupations. Carole me rejoignit sous l'arbre.
« Salut, Tom. »«
Salut, mais je crois que tu te trompes de date. Ce n'est pas mon anniversaire. »
Elle esquissa un sourire, bientôt suivi par une larme discrète qui coula sur sa joue. « Milo m'a tout révélé il y a 1 semaine. Avant ça, je te jure que je ne savais rien, » m'expliqua-t-elle en s'asseyant sur le muret du parking.
« Désolé d'avoir gâché ton mariage. »«
Ce n'est pas grave. Comment te sens-tu ?»
Comme quelqu'un qui réalise qu'il a été victime d'une manipulation.
Elle sortit un paquet de cigarettes, mais je l'arrêtai d'un geste.
Tu es folle ou quoi ? Je te rappelle que tu es enceinte.
Alors arrête de raconter des bêtises. Tu ne dois pas considérer les choses de cette façon.
Comment veux-tu que je les considère autrement ? Je me suis fait avoir, c'est tout. Qui plus est par mon meilleur ami.
Écoute, j'ai vu comment cette fille se comportait avec toi, Tom. j'ai vu comment elle te regardait. Et je te garantis que ses sentiments n'étaient pas fins.
Non. Ils étaient juste tarifés. 15 000 $, c'est ça?
Oh, n'exagère pas non plus. Milo ne lui a jamais demandé de coucher avec toi.
En tout cas, elle s'est empressée de se barrer une fois son contrat terminé.
Mets-toi un peu à sa place. Tu crois que c'était facile pour elle d'assumer cette confusion d'identité? Dans son esprit, tu es tombé amoureux d'un personnage, de quelqu'un qui était elle sans l'être vraiment.
Il y avait du vrai dans ce que disait Carole. De qui étais-je vraiment tombé amoureux? D'un personnage que j'avais créé et que Milo manipulait comme une marionnette? D'une actrice ratée qui avait trouvé là le rôle de sa vie? D'aucune des deux, en fait. J'étais tombé amoureux d'une fille qui, en plein désert mexicain, m'avait fait prendre conscience qu'en sa compagnie, tout avait plus de goût, de saveur et de couleur.
Tu dois la retrouver, Tom. Sinon, tu le regretteras jusqu'à la fin de tes jours.
Je secouai la tête. C'est impossible. On a perdu sa trace et on ne sait même pas comment elle s'appelle.
Il va falloir trouver mieux comme excuse.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Moi non plus, vois-tu. Je ne serai jamais heureuse si je sais que tu ne l'es pas.
À l'intensité de sa voix, je sentais combien ce qu'elle me disait était sincère.
Donc, je t'ai apporté ça.
Elle se pencha vers son sac et me tendit une chemise tachée de sang. C'est sympa comme cadeau, mais je préférais l'ordinateur, dis-je pour faire retomber l'attention. Elle ne put s'empêcher de sourire avant de m'expliquer.
Tu te souviens du matin où j'ai débarqué chez toi avec Milo et où tu nous as parlé de Billy pour la première fois? Ton appartement était en désordre et ta terrasse sans dessus-dessous. Il y avait du sang sur la vitre et sur tes vêtements.
Oui, c'était le jour où Billy s'était entaillé la paume de la main.
À l'époque, la vue du sang m'avait beaucoup inquiété. Je m'étais imaginé tout et n'importe quoi. Que tu avais peut-être tué ou blessé quelqu'un. Le lendemain, je suis donc retourné chez toi et j'ai lavé toutes les taches. Dans la salle de bain, j'ai trouvé cette chemise ensanglantée que j'ai apportée pour la soustraire à une éventuelle enquête. Je ne m'en suis jamais séparé, et lorsque Milo m'a avoué la vérité, je l'ai apporté au labo pour une recherche d'ADN. J'ai croisé les résultats avec le fichier CODIS et...
Elle ménagea son effet de surprise en sortant une pochette cartonnée de son sac.
Et je t'annonce que ta copine est une gentille délinquante.
J'ouvris le porte-document et tombai sur la photocopie d'un dossier siglé FBI que me commenta Carole.
Elle s'appelle Lily Austin, née en 1984 à Oakland. Elle s'est fait arrêter à 2 reprises ces 5 dernières années. Rien de bien méchant. Une fois pour rébellion à agent, en 2006, lors d'une manifestation pro-avortement, et une autre en 2009, pour avoir fumé du shit dans un parc.
Ça suffit pour être fiché?
Toi, tu ne regardes pas souvent les experts, n'est-ce pas? La police californienne recueille systématiquement un échantillon d'ADN des personnes arrêtées ou soupçonnées d'avoir commis certaines infractions. Si ça peut te rassurer, tu fais toi aussi partie du club.
Tu connais sa nouvelle adresse?
Non. Mais j'ai balancé son nom dans nos bases de données et j'ai trouvé ça.
Elle me tendit une feuille de papier. C'était une inscription à l'université de Brown pour l'année scolaire en cours.
Lily a repris des études en littérature et dramaturgie, expliqua Carole.
Comment a-t-elle pu être acceptée à Brown? C'est l'une des meilleures facs du pays.
J'ai appelé l'université. Elle a été intégrée sur dossier en admission parallèle. Je suppose qu'elle a dû passer ses derniers mois à étudier, car elle a obtenu d'excellents résultats lors des tests préparatoires.
Je regardais les 2 documents, subjugué par cette inconnue, Lily Austin, dont l'existence se matérialisait peu à peu sous mes yeux.
Je crois que je vais retourner auprès de mes invités, dit Carole en regardant sa montre. Et toi, tu devrais aller retrouver quelqu'un d'autre.
Le lundi suivant, je pris le premier vol pour Boston. J'arrivais à 16h dans la capitale du Massachusetts, louai une voiture à l'aéroport et mis le cap sur Providence. Le campus de Brown University s'organisait autour d'imposants bâtiments en briques rouges, entourés de pelouses verdoyantes. Pour beaucoup d'étudiants, c'était la fin de la journée. Avant de partir, j'avais cherché sur Internet l'emploi du temps correspondant au cursus que suivait Lily, et je l'attendis le cœur battant devant les portes de l'amphithéâtre où se terminait le cours. Suffisamment en retrait pour qu'elle ne m'aperçoive pas,
je la vis sortir de la salle au milieu d'autres élèves. Il me fallut un moment pour la reconnaître vraiment. Elle avait coupé ses cheveux qui étaient aussi plus foncés. Elle portait une casquette en tweed et un ensemble sombre. Jupe courte grise sur collant noir, blouson cintré sur col roulé, qui lui donnait un côté « London Girl ». J'étais bien décidé à l'aborder, mais je préférais attendre qu'elle soit seule. Je suivis le groupe, deux types et une autre fille, jusque dans un café proche de la fac. En buvant son thé, Lily s'était lancée dans une discussion animée avec l'un des étudiants, un type assez sophistiqué à la beauté caliente. Plus je la regardais, plus je la trouvais épanouie et sereine. En reprenant ses études loin de Los Angeles, elle semblait avoir trouvé un équilibre. Certaines personnes pouvaient faire ça, recommencer leur vie. Moi, je ne savais que continuer la mienne. Je sortis du café sans m'être montré et repris ma voiture. Cette plongée dans le monde étudiant m'avait déprimé. Certes, j'étais content de la savoir bien dans sa peau, mais la jeune femme que j'avais aperçue aujourd'hui n'était plus ma Billy. Visiblement, elle avait tourné la page, et l'avoir vue parler avec ce type de 20 ans m'avait donné un coup de vieux. Finalement, nos 10 ans de différence d'âge n'étaient peut-être pas une barrière si négligeable. Tandis que je roulais vers l'aéroport, je me disais que j'avais fait le voyage pour rien. Pire, comme le photographe qui échoue à saisir une image évanescente qui ne se présentera plus jamais. J'avais laissé passer l'instant décisif, celui qui aurait pu faire basculer ma vie du côté des rires et de la lumière. Dans l'avion qui me ramenait vers Los Angeles, j'allumai mon ordinateur portable. Peut-être n'étais-je qu'à la moitié de mon existence, mais je savais déjà que plus jamais je ne rencontrerais une fille comme Billy qui, l'espace de quelques semaines, m'avait fait croire à l'incroyable et permis de quitter ce pays dangereux où les fleuves prennent leur source dans la détresse et finissent par se jeter dans des abîmes de souffrance. Mon aventure avec Billy était terminée, mais je ne voulais pas en oublier le moindre épisode. Il fallait que je raconte notre histoire. Une histoire pour ceux qui, une fois dans leur vie, avaient eu la chance de connaître l'amour, le vivaient encore aujourd'hui, ou espéraient le croiser demain. Alors j'ouvris un document sur mon traitement de texte, et je lui donnai le titre de mon prochain roman, « La fille de papier ». Pendant les 5 heures que dura le vol, j'écrivis d'un jet le premier chapitre. Il débutait ainsi.
Chapitre 1. La maison sur l'océan. Tom, ouvre-moi! Le cri se perdit dans le vent et resta sans réponse. Tom! C'est moi, Milo. Je sais que tu es là. Sors de ta tanière, bon sang. Malibu, comté de Los Angeles, Californie, une maison sur la plage. Depuis plus de 5 minutes, Milo Lombardo martelait sans relâche les persiennes en bois qui donnaient sur la terrasse de la maison de son meilleur ami. Tom! Ouvre ou je défonce la porte. Tu sais que j'en suis capable.